When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Midi News, ravi de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 14h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Et pour ce faire, sur ce plateau, j'ai Naïma M. Fadel. Bonjour Naïma.
Bonjour Anthony.
Vous êtes essayiste. Régis Le Sommier, grand reporter, bonjour à vous.
Bonjour.
Raphaël Steinville, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles.
Bonjour Anthony.
Merci d'être avec nous. Et Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Bonjour à vous. Au sommaire de votre émission... La laïcité menacée dans les écoles, une offensive communautaire islamiste opère en ce moment sur les réseaux sociaux pour inciter les jeunes filles musulmanes à porter le voile, alors même que les signes religieux sont interdits à l'école. La pression est forte sur celles qui ne voudraient pas obtempérer, puis aussi sur les professeurs qui tenteraient de faire respecter la loi. Le ministère commence à s'en inquiéter, mais n'est-ce pas déjà trop tard? On en parle dans un instant. À 13h, ne manquez pas notre reportage, une plongée au cœur de l'enfer du crack, porte de la Villette à Paris, un an tout pile après l'arrivée des toxicomanes évacués des jardins d'Éole. Quelle est la situation sur place? Vous allez le voir, le tableau est catastrophique. Peut-on encore attendre quelque chose des pouvoirs publics? Je le rappelle, ce problème dure depuis 20 ans dans la capitale et il est déplacé systématiquement. Tout y est, les bulletins de vote, les urnes, on y croirait presque à ce simulacre de démocratie. Aujourd'hui, la Russie organise dans quatre régions de l'Est et du Sud de l'Ukraine des référendums d'annexion. Objectif, en faire des territoires russes d'ici la semaine prochaine. Des territoires russes dont Moscou pourra justifier la défense par la plus terrible des menaces, la menace nucléaire. Doit-on s'en inquiéter? On en parlera justement avec Régis Le Sommier, grand reporter, qui revient tout juste d'Ukraine et qui pourra nous en parler tout à l'heure. Mais tout d'abord, avant de développer tous ces thèmes de débat, le journal, et c'est avec vous Olivier de Carenfleck, bonjour.
Bonjour Anthony, bonjour à tous. Et pour commencer, on va prendre la direction du nord de la capitale. C'était il y a un an, les toxicomanes du jardin d'Éole dans le nord-est de Paris étaient délogés pour être déplacés vers la Villette. Alors quelle est la situation sur place un an après pour les riverains? Voyez ce reportage de Jeanne Cancard et de Fabrice Elsner.
C'est la nuit le jour, oui. Parce que moi-même, on ne pouvait plus y passer. Enfin, on y passait avec réticence.
Depuis le départ des consommateurs de crack il y a un an, Françoise ose enfin revenir dans le jardin d'Éole, où les animaux ont remplacé les toxicomanes, délogés de force. Mais à seulement 2 km plus au nord, on replonge dans l'enfer du crack, porte de la Villette, où ont été déplacés les toxicomanes. Nuit et jour, ils achètent et consomment cette drogue bon marché.
Ça coûte 10 euros, c'est même pas un gramme.
Sous emprise, des toxicomanes déambulent dangereusement entre les voitures. À la vue de notre caméra, l'un d'eux nous jette une bouteille en verre. Devant ce supermarché, quotidiennement, des bagarres éclatent. Il y a quelques jours, le gérant a été blessé par l'un des consommateurs de crack et porte désormais des gants.
C'est pour me protéger le minimum. Souvent, les gens ils sont très violents. On a déjà eu des femmes, des hommes qui sortent des couteaux, qui nous menacent.
Pour tenter de trouver enfin une solution durable pour les riverains et les toxicomanes, une réunion doit avoir lieu début octobre entre le nouveau préfet de police de Paris et les maires concernés par le fléau.
Et politique à présent, l'attitude de Jean-Luc Mélenchon risque-t-elle de plonger son parti dans la crise? Son comportement pose question ces derniers jours, ces dernières heures. Voyez le résumé des faits avec Gauthier Lebret.
Oui, on se demande vraiment à quoi joue Jean-Luc Mélenchon. Alors déjà, il dit ne pas regretter son propos, peser ses mots. Après, vous savez, son premier tweet sur l'affaire Quatennens, où il n'avait pas eu de mots pour la compagne, donc giflé de l'aveu même de son mari, d'Adrien Quatennens. Et ensuite, effectivement, il a tapoté la joue du journaliste de Quotidien hier, qui lui posait cette question, un acte d'intimidation. Imaginez deux secondes si ça avait été l'inverse, et si ça avait été un journaliste qui tapotait la joue d'un politique. On imagine un peu la polémique. Alors, la droite se saisit de cette affaire, à commencer par le président des Jeunes LR, Guilhem Carayon, qui dit la chose suivante. 60. Si un politique de droite avait fait la même chose, la meute de la France insoumise hurlerait à l'intimidation, peut-être même à l'agression. Et si c'était Marine Le Pen, on aurait droit à toutes les matinales demain pour décrypter ce geste. Tandis qu'à la France insoumise, Manuel Bompard, député, qui était ce matin sur notre antenne, défend le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon, en expliquant qu'Emmanuel Macron a fait pareil avec le président burkinabé ou avec son ancien Premier ministre lors de son intronisation, la dernière intronisation, Édouard Philippe. Alors, selon un sondage IFOP pour Sud Radio, Jean-Luc Mélenchon devrait faire attention à la fois à ses gestes et à ses mots, car ça a sans doute un impact sur l'opinion publique. Déjà, une courte majorité de Français se dit inquiète par la France insoumise, 52%. Et puis, il y a une autre question posée par l'IFOP. Jean-Luc Mélenchon vous inquiète-t-il ? Regardez l'évolution en 5 ans. On passe de 38 à 53%. Et puis, dernière question. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est un handicap pour la France insoumise ? Oui, pour 60% des sondés. Un coup dur pour le leader insoumis. Mais la vraie question, ça c'est la vie des Français. Est-ce que demain ça sera la vie des adhérents de la France insoumise et même des cadres ? On a vu cette semaine lors d'une conférence de presse absolument lunaire à l'Assemblée nationale qu'ils étaient très peu nombreux à vouloir défendre Jean-Luc Mélenchon.
Et on l'entendait, Emmanuel Bompard, député LFI, était l'invité de Laurence Ferrari ce matin sur CNews. Il a réagi à l'affaire Quatennens et une réponse de quoi provoquer le débat, écoutez-le.
J'essaye de faire la part des choses. Une gifle n'est jamais acceptable, mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours. Et une gifle n'est pas égale à une personne qui est accusée de viol après avoir drogué les personnes qui l'accusent. En tout cas, c'est les accusations qui sont portées à son encontre. Ce sont des accusations. Bien évidemment, il y a aussi de la présomption d'innocence. Il faut qu'on arrive sur ces sujets à avoir de la nuance.
Et la situation liée à la guerre en Ukraine à présent, les référendums d'annexion par la Russie ont débuté ce matin dans 4 régions de l'est de l'Ukraine. Une parodie, un simulacre pour de nombreux chefs d'État, Emmanuel Macron en tête. Et tandis que l'ONU l'affirme ce matin, des crimes de guerre ont été commis en Ukraine. Et dans ce contexte de mobilisation partielle en Russie, le président ukrainien appelle les Russes à fuir leur pays. Écoutez-le.
55 000 soldats russes sont morts dans cette guerre en 6 mois. Des dizaines de milliers sont blessés, mutilés. En voulez-vous davantage ? Non. Alors protestez, combattez, fuyez ou rendez-vous à l'armée ukrainienne. Ce sont les options qui vous permettront de survivre.
Culture et la version du ballet Roméo-Juliette de Benjamin Millepied qui suscite des réactions, pardonnez-moi. Il fait alterner effectivement une version masculine, féminine et mixte de la célèbre histoire des Amants de Vérone, un mélange des genres surprenant pour certains. Sandra Tchiombo.
Déçus et surpris par cette version revisitée de Roméo et Juliette, certains spectateurs ont quitté la salle plus tôt que prévu.
Une horreur. Hein ? Vous saviez que Juliette est un homme ? Moi, je ne savais pas.
Le chorégraphe Benjamin Millepied a voulu casser les codes avec une création originale, mais l'œuvre n'est pas au goût de tous.
Très mitigé, on ne s'attendait pas à ça, en fait, en regardant l'affiche, tout simplement.
Ouais. En fait, sur l'affiche, il y avait un homme et une femme, et du coup, on était un peu surprise que ce soit deux hommes, mais bon...
Pourquoi pas ?
Voilà. C'était original.
D'autres, en revanche, ont salué la créativité du chorégraphe français et le talent de ses danseurs originaires de Los Angeles.
Nous, on est très contents. On a adoré.
C'était génial, très original. On a mis du temps, mais au final, après, on identifie et c'est très original. Et l'interprétation, tout l'univers, en fait, c'est complètement différent de ce qu'on attend.
Benjamin Millepied et sa troupe se produisent à la scène musicale jusqu'à dimanche. Ils présenteront une nouvelle création en octobre prochain au Théâtre du Châtelet à Paris.
Allez, place au débat tout de suite dans Midi News avec vous, Anthony Favalli, et vos invités.
Merci Olivier, on vous retrouve à 13h pour un nouveau journal. Je vous le disais en sommaire, la laïcité attaquée à coups de boutoir dans nos collèges, dans nos lycées, attaquée par des revendications religieuses. C'est aujourd'hui le port du voile qui est en question, mais pas seulement. Il y a aussi l'abaya, une tunique que l'on porte par-dessus les vêtements. De plus en plus de jeunes revendiquent de pouvoir les porter. Et on le rappelle, c'est interdit depuis 2004 dans la loi sur la laïcité à l'école. Elle interdit le port de signes ou de tenues religieuses dans les établissements, mais c'était sans compter sur les réseaux sociaux où de jeunes musulmans s'incitent mutuellement à contrevenir à la loi. Regardez cette séquence, c'est ce qu'on appelle un tutoriel, c'est sur TikTok, avec une jeune fille qui explique comment entrer dans son lycée en dissimulant sa tenue islamique. Regardez.
Ah, pourquoi vous m'avez
donné votre
tenue trop islamique ?
Va falloir que tu te changes.
Quoi ? Mais elle sait pas que je suis abonnée à Kaviendresse.
Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, KV Dress vous propose une abaya très spéciale. Celle-ci est super pratique pour les étudiantes en lycée, collège ou école, parce qu'elle est rétractable. Comme vous pouvez le voir, c'est une abaya à double tissu qui peut se transformer en tunique. Il suffit juste de rentrer la première couche dans votre bas et c'est fini. Bye bye les surveillants islamophobes.
Est-ce que cette offensive sur les réseaux sociaux, et vous allez le voir et on va le voir dans quelques instants, il y en a plein des vidéos comme ça. Est-ce que c'est une offensive contre l'école de la République finalement, Naïma M. Fadel ?
Bah écoutez, en tout cas, il y a une volonté de s'attaquer à la laïcité, évidemment, et d'introduire des signes religieux à l'école. La abaya n'est pas une tenue islamique. La abaya, c'est une tenue traditionnelle qui était portée par les Bédouins.
Et ce n'est pas considéré dans la loi comme
absolument
une tenue religieuse
pas. Pour non, le problème. Absolument pas. Traditionnellement, les pays ont des tenues. Le Maroc, c'est une djellaba. Et encore, quand vous allez à l'école, vous n'allez pas en djellaba. Mais la abaya, c'est une tenue, effectivement, d'Arabie Saoudite, qui est devenue une tenue islamique. C'est-à-dire qu'on la qualifie aujourd'hui, mais elle n'a rien d'islamique. Déjà, il faut dire ça. Mais effectivement, aujourd'hui, sous prétexte de s'habiller comme les Saoudiens, le wahhabisme, etc., on ne va pas revenir sur tout ça, elle a maintenant elle est qualifiée de tenue islamique.
Il y a cet argument qui revient sans cesse et on l'entend à la fin de cette séquence. Bye bye les islamophobes, les surveillants islamophobes. C'est cet argument d'islamophobe qui est utilisé terrible. À chaque fois pour justifier
évidemment,
les atteintes à la laïcité.
On est c'est des adolescents, etc. Tout ça, ça pose la place et le rôle des enseignants et la place et le rôle des parents. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un ne respecte pas le règlement, qu'est-ce qu'on fait ? On l'exclut, d'une. De deux, on convoque les parents. On convoque les parents, il faut convoquer les parents. Je n'entends jamais parler, les enseignants ne parlent jamais de la place et du rôle des parents.
Vous voyez les pressions que subissent, et on l'a vu encore cette semaine, les enseignants, dès lors qu'ils essayent de faire respecter la loi dans les écoles, qu'ils appellent les parents éventuellement, ils sont parfois menacés quand ils essayent simplement de faire respecter la loi, et pas soutenus par la hiérarchie.
Oui, alors ça c'est un problème aussi, la place et le rôle encore une fois de la hiérarchie. Il faut être strict sur ces questions-là. Il faut absolument faire respecter la laïcité à l'école. Après, il y a une autre chose que moi, j'appelle de mes voeux depuis très longtemps, c'est l'uniforme à l'école. Parce qu'on est aussi, on a aussi d'autres revendications par rapport à la manière de s'habiller. Et ces jeunes filles-là, en fait, profitent aussi de ça. Ils disent, mais pourquoi à l'école, on peut venir en short ou en croc-top et nous, on ne pourrait pas venir habiller comme on veut. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, chacun va aller attirer son épingle du jeu de l'absence, effectivement, d'une règle qui puisse être une règle pour tout le monde.
Je vais peut-être dramatiser un petit peu l'enjeu de tout ça, mais est-ce que ce n'est pas aussi le début d'un basculement de la société ? C'est-à-dire quand le communautarisme, finalement, atteint les plus jeunes, est-ce que ce n'est pas aussi la France de demain qui est menacée, une France archipélisée, quelque part ?
Bah bien sûr, mais elle est très, très largement archipélisée, et pas d'ailleurs que dans la jeunesse, originaire d'immigration et de confession musulmane. Aujourd'hui, on a une archipélisation profonde de la société. Relisez le bouquin de Fourquet, y compris d'un point de vue des régionalistes, etc. En Corse, vous avez d'un côté les Corses originaires de Corse, de l'autre, les personnes issues d'immigration, et ces identités se construisent en miroir contre ensuite l'identité française. Donc là, il y a en effet un vrai sujet. Après, je dirais que concernant l'école, on l'a aussi bien cherché. C'est-à-dire qu'on a laissé rentrer la société dans l'école. Aujourd'hui, vous avez une volonté d'autoriser plus d'autonomie aux établissements. Sur le papier, c'est très très bien, on donne du pouvoir au terrain, etc. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des projets d'école dans lesquels on inclut les parents, dans lesquels on inclut les associations qui, du coup, rentrent dans l'école. Donc des acteurs dont on aurait aujourd'hui besoin plutôt d'isoler les jeunes, c'est-à-dire de refaire de l'école cet endroit relativement sacré où vous faites passer les idées républicaines et où justement l'influence de la famille, l'influence dans notre côté du contexte social à travers les associations ne pénètre pas. Plutôt que de faire ça, au contraire, on les inclut. Et donc aujourd'hui, vous avez des parents qui font de plus en plus pression sur l'éducation nationale. Ma compagne est enseignante, elle est enseignante en primaire. Vous avez des groupes WhatsApp des parents qui disent « Regardez l'enseignant, il est islamophobe, ça ne va pas, etc. » Et tout d'un coup, tout ça se diffuse. Et c'est très très difficile pour un enseignant seul, non soutenu par sa hiérarchie, de tenir face à un groupe de parents. Donc aujourd'hui, si vous ne refaites pas de l'école un lieu sacré, et là l'uniforme peut en effet profondément y participer, vous n'y arriverez pas parce qu'il y a certains sujets de laïcité, mais ça a bien été dit. Vous avez aujourd'hui une offensive sur les tenues traditionnelles et là, la loi, pour l'instant, n'est pas du côté des enseignants. Vous ne pouvez pas, au nom de la loi, interdire une tenue traditionnelle, sauf si vous avez un règlement de votre établissement qui le permet. Mais encore faut-il que vous ayez le soutien du chef d'établissement. Donc si jamais vous n'avez pas de port de l'uniforme aujourd'hui et une resacralisation des murs de l'école, vous n'y arriverez pas.
Est-ce que l'éducation nationale a pris la mesure, l'ampleur du problème finalement? Je vous cite par exemple dans la dépêche du midi, Pape Ndiaye, ministre de l'éducation nationale, c'était au début du mois, il nous disait « je me garderais bien de généraliser ces phénomènes, il y a des points de vigilance, mais cela ne dit pas tout des 60 000 écoles et établissements scolaires en France ». Est-ce que finalement il a compris le problème? Est-ce qu'il mesure l'ampleur du phénomène finalement, selon vous?
Une volonté d'euphémiser tous ces problèmes. C'est-à-dire que, en l'occurrence, Pape Ndiaye réagissait pas seulement aux tenues vestimentaires et aux voiles, mais aux difficultés pour un certain nombre d'enseignants de pouvoir ne serait-ce qu'évoquer la Shoah dans leur programme, l'antisémitisme de plus en plus prégnant dans certaines écoles et dans certains quartiers. C'était ça qu'il évoquait et qu'il tentait de minimiser. Cette offensive souligne deux choses, à mon sens. D'abord, c'est le poids de plus en plus important, finalement, de cette communauté musulmane et de son corollaire qui est cette minorité extrêmement active parmi cette population musulmane qui essaye progressivement de tester chaque jour qui passe un peu plus les fragilités finalement de notre système de cette laïcité qui met à mal. Souvenez-vous, il y a encore une semaine à Paris, c'était une enseignante qui était menacée de mort pour avoir demandé à une élève de retirer son voile. Et après, la deuxième chose, c'est que au-delà de ces questions vestimentaires, c'est vraiment toute l'école qui est fragilisée. C'est-à-dire que des professeurs aujourd'hui sont empêchés d'aborder un certain nombre de thématiques dans leur programme parce que cela contrevient à un certain nombre d'élèves et de leurs parents. Donc c'est ça montre le poids de plus en plus compliqué pour la société française, pour l'éducation nationale en particulier, à gérer ces problèmes communautaires et cette dominance de plus en plus prégnante de cet islamisme politique qui s'infiltre
dans tous les cas. Il y a une forme d'alerte de la part du ministère de l'Éducation nationale, puisque il a écrit plusieurs notes en ce mois de septembre au rectorat pour appeler à la vigilance sur cette loi de 2004 et sur le respect des principes de laïcité par les élèves. Regardez ces explications de Sandra Tchombo et je vous donne la parole, Régis Le Sommier.
Elle se compte par dizaines sur les réseaux sociaux. Ses vidéos postées sur Twitter et la plateforme TikTok en particulier deviennent rapidement virales et font le tour des cours de récréation. Dans la plupart des vidéos, les étudiantes incitent au port de la tenue islamique en se mettant directement en scène dans les établissements scolaires avec une orthographe approximative. Va dire au boss qu'on a repris la zone. Des vidéos d'incitation donc, qui vont même jusqu'à expliquer comment tromper l'éducation nationale, comme celle-ci, vue par près de 300 000 jeunes internautes.
Celle-ci est super pratique pour les étudiantes en lycée, collège ou école, parce qu'elle est rétractable. Comme vous pouvez le voir, c'est une abaya à double tissu qui peut se transformer en tunique. Il suffit juste de rentrer la première couche dans votre bas et c'est fini. Bye bye les surveillants islamophobes.
Des vidéos qui n'ont pas échappé au comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Ce dernier parle de comptes gravitant autour de la mouvance islamiste qui remettent en cause le principe de laïcité à l'école dans le but de déstabiliser l'institution scolaire. Mais bon, il faut que je fasse
comme si de rien n'était. Naïma Mfadel, une réaction.
Mais le problème, c'est que rien n'interdit la abaya. Rien n'interdit les longues jupes. Moi, quand j'étais déléguée du préfet, on avait des cas aussi de jeunes filles qui arrivaient avec des longues jupes. On ne va pas commencer à regarder le centimètre de la jupe. Rien ne l'interdit. Le voile est interdit.
Donc, mais on observe aussi un certain nombre de vidéos sur les réseaux sociaux où le voile est porté à l'intérieur de la salle de classe, où il est arboré fièrement par des jeunes filles sur TikTok pour montrer qu'elles ont réussi à pénétrer dans l'enceinte de l'établissement avec ce voile.
C'est la place et le rôle des professeurs. Le problème, Anthony, et pour avoir travaillé sur ces questions, c'est que les professeurs relativisent pour avoir la paix. C'est comme, interrogeons-nous, toutes les gamines qui ne font plus de sport, qui ne vont plus à la piscine.
Bien sûr.
Vous voyez, c'est ça le problème.
C'est pas seulement qu'ils relativisent, c'est qu'ils sont aussi terrifiés. Regardez, j'ai évoqué tout à l'heure l'exemple de cette professeure qui a demandé à cet élève de retirer le voile et donc qui se contente d'appliquer le règlement et la loi. Et elle a été menacée. Alors, donc en fait, c'est bien ça aussi le problème pour les professeurs, c'est qu'aujourd'hui, le simple fait de demander à une jeune fille de ne pas porter le voile vaut quasiment condamnation à mort pour certains.
Je suis d'accord avec vous, Raphaël. Dans ce cas-là, elle est où la hiérarchie qui doit protéger? Qui doit absolument protéger. Parce que, et puis aussi la justice, ce jeune homme-là, le frère de cette fille qui a menacé le professeur, qui a été en garde à vue, qui est tout de suite ressorti et qui a remenacé. Pourquoi il n'y a pas eu comparution immédiate et prison ferme?
Alors, je voudrais vous faire écouter ce témoignage très éclairant de Didier Lemaire.
Je voudrais juste revenir sur ça, mais tout ça, ça impacte aussi sur l'ensemble des musulmans. La majorité, il y a quand même aujourd'hui près de 8 millions de musulmans en France. Et aujourd'hui, cette minorité est en train de faire sa loi et de jeter l'anathème sur l'ensemble de ceux qui respectent la laïcité.
Vous parliez de l'impuissance du corps professoral par rapport à ces phénomènes. Écoutez Didier Lemaire, ancien professeur de philosophie à Trappes, qui a dû abandonner sa profession à cause de ses prises de position. Justement, il évoque une école de la République, selon lui, gangrénée par l'islamisme, et ça lui a valu des menaces. Je vous propose de l'écouter.
Je connais autour de moi des enseignants qui ont dû quitter leur poste parce qu'ils étaient menacés. Encore une fois, mon collègue de Trappes a dû quitter son poste. Il est maintenant dans un autre poste, mais il n'est pas soutenu par l'administration. Malheureusement, on met toujours la poussière sous le tapis. On demande finalement aux enseignants d'éviter que les conflits avec certains de leurs élèves ne s'embrasent. Et c'est cela le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autorité finalement de l'État.
On met la poussière sous le tapis Régis Le Sommier et Didier Lemaire qui dit également qu'il y aura d'autres Samuel Paty.
Oui, alors ça effectivement c'est une perspective terrifiante. Moi, il y a quand même quelque chose, on a évoqué des citations de Pape Ndiaye qui dataient du mois de juillet. Hier, on a débattu sur le fait que Pape Ndiaye était aux États-Unis, dans le temple de la culture woke, avec des militants, justement, qui, dans les fêtes, même si la question du voile islamique est autre chose, mais dans un contexte où, finalement, il était dans le temple du communautarisme, et de voir un ministre de l'Éducation français revenir à ses amours de jeunesse pour justement cette pensée qui est divisante, qui est une pensée de communauté, justement une pensée qui dresse souvent les communautés les unes contre les autres. Et bien j'ai trouvé ça assez choquant, et j'ai trouvé ça choquant d'autant plus qu'il y a ce type de phénomène, parce que les principes français, la laïcité qu'on a évoqué, doivent être défendus et en premier chef par le ministre de l'Éducation. Et le ministre de l'Éducation, à mon sens, n'a pas à perdre de temps à aller dans des universités américaines, même s'il a été influencé par cette pensée. Aujourd'hui, sa mission première, c'est justement de préserver l'unité de la France. Et on voit que l'unité de la France, elle est menacée. Et elle est menacée pas simplement par ce ministre un peu, je dirais, ambigu dans sa philosophie. Elle est aussi menacée par l'Europe. Souvenez-vous de l'affaire Fémiseau au début du mois de juillet, où des clips produits par le Parlement européen nous montraient des jeunes filles, la diversité, c'était le voile. La diversité, c'était... Exactement. Donc, on mettait ça en avant comme si c'était un signe...
Ça vient aussi du problème qu'il n'y a pas une vision uniforme en Europe de cette question-là, justement.
Mais le problème était, c'est qu'on mettait en avant ça comme un signe de progrès. Je vais conclure tout simplement, demander aux Iraniennes qui aujourd'hui brûlent leur voile ce qu'elles en pensent. Voilà.
Benjamin Morel.
Non, fondamentalement d'accord avec ce qui a été dit. Et je dirais même plus loin que Didier Lemaire pour reprendre son propos, c'est-à-dire que on exfiltre en réalité les profs courageux. C'est-à-dire que dès lors que vous avez un prof qui dit non et qui tout d'un coup du coup est menacé, eh bien vous l'exfiltrez.
Qui a envie
et donc
le prochain Samuel Paty au sein
de voilà. Et donc entre guillemets, si jamais vous voulez rester en poste, ben vous ne dites rien. Et si jamais vous dites quelque chose, ben du coup vous pourriez imposer quelque chose, mais on vous exfiltre. Et en effet, là il y a une lâcheté. Je rejoins tout à fait ce que disait Régis tout à l'heure sur l'Europe. Là, vous avez aujourd'hui un rôle en partie délétère du droit européen. Pas d'ailleurs tant du droit de l'Union européenne, mais du droit de la Convention européenne des droits de l'homme. Vous avez une volonté d'influer sur les sociétés pour obtenir un modèle qui est un modèle très multiculturaliste. Or, aujourd'hui, profondément, si l'Europe veut parvenir à exister, elle a besoin justement de retrouver ce qui est à la base de ses valeurs.
Allez, on marque une courte pause. Y a-t-il un problème Jean-Luc Mélenchon au sein de la France insoumise? En tout cas, il y a un malaise. On va voir ça dans un instant. Quasiment midi 30, on est de retour sur le plateau de Midi News. Je suis toujours avec Naïma M. Fadel, Régis Le Sommier, Raphaël Steinville et Benjamin Morel pour décrypter l'actualité. Mais tout d'abord, avant de poursuivre nos débats et parler de Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise, tout de suite le rappel de l'actualité. Et c'est avec vous, Audrey Berthaud. Bonjour.
Bonjour Anthony, bonjour à tous. Les forces de l'ordre ont évacué ce matin un campement de migrants, une centaine de mineurs isolés étrangers installés depuis fin mai, place de la Bastille à Paris. La préfecture de police met en avant des problèmes de salubrité publique. Une épidémie de gale a été constatée dans le camp. Certains des jeunes sont scolarisés. Ils vont être acheminés vers des hébergements pour adultes en Île-de-France. Des crimes de guerre ont été commis en Ukraine selon l'ONU. Ils parlaient jusqu'à présent de soupçons de crimes de guerre, mais des enquêteurs de l'organisation ont conclu que de telles atrocités ont bien été commises dans le pays depuis l'invasion russe. Au cours des enquêtes, la commission a visité 27 villes et interrogé plus de 150 victimes et témoins. Enfin, une page de l'histoire du tennis se tourne. Roger Federer va jouer le dernier match de sa carrière aujourd'hui à Londres. Le Suisse jouera en double avec Rafael Nadal pour la Lever Cup. Début du match à 20h45, à 21h45 heure française. Ils joueront contre les Américains Sock et Tiafo, puis mettra donc fin à sa prestigieuse carrière à 41 ans.
Y a-t-il un problème Jean-Luc Mélenchon à la France insoumise? J'ai presque envie de dire la réponse est dans la question. Depuis plusieurs jours, il suscite l'embarras, en tout cas au sein du parti, par ses propos d'une part sur l'affaire Quatennens et puis par ce geste aussi qu'on a pu apercevoir hier à la télévision. Regardez cette image qui a choqué beaucoup de monde. C'est un Jean-Luc Mélenchon qui tapote sur la joue d'un journaliste de Quotidien qui justement l'interroge sur cette affaire embarrassante qui agite son parti. Il lui demande s'il regrette les propos qu'il a eus sur Twitter. Et je voulais vous poser la question, est-ce que c'est un signe d'intimidation? Je vais commencer par les journalistes autour de la table. Si une personnalité politique venait à vous mettre la main de cette façon sur la joue, comment vous le prendriez personnellement?
Ouais, il y a eu une certaine époque, je me souviens d'un candidat qui est devenu président après, qui disait à certains journalistes, je connais ton patron, des choses comme ça. Je pense que c'était autrement plus intimidant que d'avoir... petit geste.
Alors à ce geste, voilà, je vais ajouter les paroles de Jean-Luc Mélenchon qui lui dit « Monsieur, je pèse mes mots tout le temps » en parlant de son tweet, avant d'ajouter « C'est vous qui regrettez ce que vous êtes en train de me dire ». Et je suis désolé, mais il y a un fond de menace un petit peu dans la façon de dire ça.
Il a toujours été comme ça, Jean-Luc Mélenchon. Moi ça ne m'étonne pas, c'est quelqu'un qui est très impulsif. C'est quelqu'un qui peut avoir parfois des qualités, brillance oratoire, qu'on lui connaît, un caractère de tribun, une vision et un intellectualisme parfois extrêmement puissant. Et puis, à côté de ça, il va se laisser... Il y a une sorte de Jean-Luc Mélenchon un peu sombre à l'intérieur et qui, parfois, se laisse aller à des débordements. Souvenez-vous, l'altercation, « Je suis la République », ses yeux exorbités, traitant des gens de connards aussi. Enfin, c'est pas la première fois qu'on le voit. Là, à chaque fois qu'il est poussé à bout, il y a une forme de Jean-Luc Mélenchon, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui se matérialise. Donc, c'est des sautes d'humeur. Il a du mal, effectivement, à se contenir.
Mais est-ce qu'on peut, prétendre au pouvoir politique quand on a de telles sautes d'humeur, concrètement? Parce que
tout dépend.
Il y a quand même une maîtrise. Et puis surtout envers les journalistes. Parce que c'est quand même, c'est quand même très symbolique de s'attaquer au journalisme.
La première fois, moi j'ai souvenir, je crois que c'était pendant la campagne des législatives de 2012. Ils ont été pris un journaliste dans un café, le menaçant, l'intimidant, en rappelant « je connais votre famille », comme s'il avait des dossiers sur tous les membres de cette famille. À l'époque, c'est un journaliste de l'Express qui est aujourd'hui à Valeurs Actuelles et qui avait reçu le soutien de Christophe Barbier. Donc cette intimidation, la manière dont il essaye de mettre la pression sur ses interlocuteurs dès lors qu'il est en faiblesse, c'est assez systématique chez lui. Mais d'une certaine manière, c'est assez cohérent avec le personnage tel qu'il se définit lui-même. La République, c'est lui. Finalement, la violence symbolique, c'est aussi lui, ou la violence tout court, c'est lui. Il s'autorise tout, et moi, ça ne m'étonne pas tellement.
Alors, je vais continuer à vous donner la parole. Je voudrais juste vous faire écouter Manuel Bompard, député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône, justement héritier finalement de cette circonscription qui était auparavant celle de Jean-Luc Mélenchon. Il était sur notre antenne ce matin, invité de Laurence Ferrari. On l'écoute.
c'est un signe de taquinerie. J'ai vu Emmanuel Macron faire la même chose avec même un président, le président du Burkina Faso. Je l'ai vu faire avec Édouard Philippe, le Premier ministre, lors de sa cérémonie d'investiture. Personne n'a dit à ce moment-là à Emmanuel Macron qu'il était dans une attitude d'intimidation. À un moment, il faut être un petit peu sérieux. Bon, je comprends qu'on a envie de feuilletonner en permanence sur ces sujets. Je pense qu'on a des sujets un peu plus importants auxquels on est confrontés aujourd'hui.
Malgré tout, il y a encore les mots de Jean-Luc Mélenchon. Vous regrettez ce que vous êtes en train de me dire, qui apparaît un petit peu comme une menace aussi.
Ce personnage, il est toujours dans cette posture de toute puissance. Il est extrêmement condescendant. Il est d'ailleurs même avec ses militants. Rappelons-nous, les militants...
Ah oui, il y a quelques semaines où il intimait à ses militants de ne pas lui demander de parler plus fort, que c'était eux qui avaient Caster.
Voilà, il leur a très très mal parlé. Je pense aussi à un militant avec lequel il voulait prendre une photo avec lui et qui lui a dit « Ah ben non, du coup, je ne prends pas de photo avec... avec vous. Il est extrêmement violent, agressif dans sa posture. Et puis là, ce geste, je l'ai trouvé extrêmement condescendant, intrusif. Il le touche. D'ailleurs, le journaliste marque...
un mouvement de recul. Voilà.
Un mouvement de recul. C'est le gourou. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon, c'est un gourou. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans la toute-puissance, qui a cette posture de gourou, de violence. Et en fait, j'ai l'impression que personne ne l'arrête dans cette posture de violence. Et on parle des journalistes, mais on va se dire les choses. Le quotidien lui fait souvent un accueil plutôt très positif. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est, j'ai envie de dire, l'arroseur arrosé.
Ne souffre pas la critique. Benjamin Morel.
Oui, je suis assez d'accord avec ce que disait Régis Le Sommier tout à l'heure. C'est-à-dire, je crois qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect tempérament et il y a aujourd'hui un peu un syndrome de persécution qui fait que, qui plus est, lorsqu'il voit un journaliste, eh bien, parfois, ça peut assez rapidement monter dans les tours. Et ensuite, il y a un aspect âge. Pas parce que il est âgé en lui-même, mais parce qu'en réalité, il est là-dessus témoin d'une autre époque où les relations entre journalistes et politiques étaient fondamentalement différentes. Le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'on a changé d'époque. Et qu'il est, par rapport à l'époque d'aujourd'hui, dans une posture qui est une posture assez étrange. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est probablement l'homme politique aujourd'hui qui arrive le mieux à maîtriser les nouvelles technologies, les réseaux sociaux. Souvenez-vous des débats sur TikTok lors des dernières présidentielles. Souvenez-vous des hologrammes. Souvenez-vous du jeu vidéo en 2017, qui était d'ailleurs...
Il a une fascination pour les nouvelles technologies.
Il sait en user
pour ses campagnes.
Il est bien entouré en la matière, mais ouais. Il sait faire. C'est-à-dire qu'il sait adapter un discours qui est un discours construit, etc., à des supports qui, a priori, ne s'y prêtent pas. Là-dessus, il est très, très bon. Mais en même temps, dans son rapport à l'autre, etc., il n'a pas compris qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus parce que, tout bêtement, les mentalités ont changé. Ça ne se fait plus parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes Jean-Luc Mélenchon et que vous sortez, il y a toujours une caméra qui vous suit. Et donc, ça se sait, ça se voit. Et donc là, on a deux Jean-Luc Mélenchon. Un qui a compris la modernité, l'autre qui est resté bloqué dans les années 80.
Et le plus compliqué, c'est quand le discours ne correspond plus aux actes, et notamment sur l'affaire Quatennin, c'est les tweets de Jean-Luc Mélenchon.
Juste peut-être pour compléter, mais d'ailleurs je suis pas tout à fait d'accord avec votre analyse. Moi je connais depuis longtemps et j'ai suivi pendant longtemps Jean-Luc Mélenchon. J'ai souvenir une fois, j'étais en rendez-vous dans le bureau de son adjoint, qui était François Delapierre, qui est mort emporté par un cancer, pendant une campagne présidentielle, je crois que c'était ça, en 2012. Et je me souviens que François Delapierre avait été lui-même gêné, parce que Jean-Luc Mélenchon, dans le bureau qui était voisin, s'emportait face à l'une des responsables de la France Insoumise, qui est le parti de gauche à l'époque, et lui avait dit « dégage, hors de ma vue ». Donc il y a une violence, oui, il est irruptif, il n'est pas seulement comme ça avec les journalistes quand ça lui chante. Il y a une violence inhérente, je pense, chez Jean-Luc
Mélenchon. Je voudrais qu'on en vienne à l'incohérence, justement, entre voilà, la philosophie, finalement, ou ce que revendique la France Insoumise, et les propos de Jean-Luc Mélenchon. Et notamment sur Twitter, il disait donc à ce journaliste de Quotidien qu'il persiste et signe sur ses propos. Il pèse ses mots, il ne regrette rien. On rappelle qu'il a d'abord apporté son soutien à Adrien Quatennens en soulignant sa dignité, son courage, en lui redisant sa confiance, son affection. Il a vu que ça posait un petit peu problème. Il a essayé ensuite de corriger le tir quelques heures plus tard, finalement, sans réellement convaincre. Et je vous propose d'écouter la réaction ce matin de Manon Aubry qui est donc députée européenne de la France Insoumise.
Je pense que ces mots n'étaient pas les bons, c'était pas la bonne réaction, que ça a été corrigé et que la position du mouvement politique qui est le mien, auquel j'appartiens, c'est le communiqué de la France Insoumise, qui dit très clairement trois choses. un, il prend acte du retrait nécessaire d'Adrien Quatennens, justement parce que lui-même a déclaré avoir commis des faits de violence conjugale. Il dit une deuxième chose, il rappelle notre attachement et notre engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et troisièmement, il rappelle qu'il y a un comité interne qui existe et qui peut être saisi par n'importe quelle femme.
Alors, au regard de ces éléments qu'on vient de présenter, le constat qu'on vient de faire sur l'incohérence parfois des propos de Jean-Luc Mélenchon et de ce que revendique en tout cas la France insoumise, notamment sur voilà la protection des femmes victimes de violences. Regardez ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. Diriez-vous que la France insoumise vous inquiète? Tout d'abord, ceux qui répondent, les Français qui répondent, disent oui à 52%. Autre question posée, diriez-vous que Jean-Luc Mélenchon vous inquiète? Les Français répondent oui, cette fois à 53%. Ils étaient 38%, vous le voyez, à répondre que Jean-Luc Mélenchon les inquiétait en 2017, il y a 5 ans. Et enfin, diriez-vous que Jean-Luc Mélenchon est plutôt un atout ou un handicap pour la France insoumise? Et là, c'est très clair aussi, pour 60% des Français, Jean-Luc Mélenchon représente un handicap pour la France insoumise.
Ce qui est intéressant dans ce sondage, c'est les 38% de, c'est quoi, de 2017, hein,
je crois. Oui, c'est ça. Entre 2017 et 2022, voilà, 38% de Français inquiets, mais désormais 53%.
Oui, il me semble qu'il existe chez Jean-Luc Mélenchon, on a évoqué justement ces deux personnalités, une solaire et une plus dionysiaque, on dira. et que chez lui, malheureusement, je pense qu'il y a une énorme frustration qu'il a du mal à contenir, en fait, au fil des ans, des années. Regardez, c'est la deuxième fois qu'il échoue au pied du trophée, qui était une deuxième place à la présidentielle. Il avait manqué aussi il avait fait une remontée spectaculaire il y a cinq ans. Il était arrivé quatrième. Et je pense que chez lui, il y a une vraie conscience justement d'un déclin. D'abord, il le dit lui-même quand il est raisonnable. Jean-Luc Mélenchon raisonnable, c'est je vais passer la main. Il faut qu'il y ait mon successeur. Ça fait longtemps qu'il en parle de ça. Et je pense que il a du mal à contenir justement et son image s'est détériorée à cause de ça.
La République, c'est moi, est passé par là. Terrible.
Et je dirais qu'il y a aussi un phénomène chez lui, c'est l'espèce d'obsession et en tout cas d'idée d'être habité lui-même par des personnages historiques. Je pense que les tribuns historiques, les Jaurès et même Chavez, même ces personnages-là, c'est l'univers dans lequel évolue Jean-Luc Mélenchon. C'est un univers peuplé de fantômes. Et je pense que ça explique cette espèce de décrépitude progressive à laquelle on est en train d'assister, jusqu'à un spectacle assez pathétique, parce qu'il ne comprend, je dis pas qu'il comprend plus les enjeux, mais c'est vrai que de toute façon c'est difficile de comprendre les enjeux de ce qui se passe à la France insoumise quand vous avez la moitié des élus qui font le contraire de ce que ils sont censés professer, quoi.
Régis, ça peut aussi avoir contribué. Lors des présidentielles, il a perdu, il s'est pas avoué vaincu, et il y a eu le fameux lancement du troisième tour, premier ministre.
Avec l'affiche.
Alors qu'on se rappelle comment il était défait, et qu'ensuite, il a lancé ça avec cette affiche.
Et je pense que c'est ça qui...
Donc je ne lâche rien, il y avait cet espoir, et maintenant c'est fini.
Un tout dernier mot, Benjamin Morel, et on avance.
Je rejoins tout à fait ce qui a été dit. En plus, il avait théorisé sa prise de pouvoir. Ça devait se faire en trois fois, parce que c'est comme ça que ça s'est passé en Amérique latine. Et là, la troisième fois, ça n'a pas fonctionné, ce qui crée des frustrations. Après, par rapport à votre enquête, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est un handicap? Probablement. Mais sans Jean-Luc Mélenchon, c'est quoi la France insoumise? Ce sont en réalité, c'est un conglomérat de militants qui fait 3%, 4%. La force de la France insoumise aujourd'hui, et sa faiblesse également, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est son charisme, c'est sa capacité à incarner quelque chose dans l'opinion. Vous mettez Éric Coquerel, vous mettez Clémentine Autain, ou vous mettez Daniel Obono en 2027, ça fait 5%.
Et dauphin quasi désigné était Adrien Quatennens, qui aujourd'hui est contraint de se mettre en retrait.
Effectivement, politiquement mal en point. Des ateliers en non-mixité réservés aux femmes. C'est ce que propose l'université Rennes 2, un atelier musical pour permettre aux femmes et seulement elles de découvrir un logiciel de montage audio. Et là vraiment, je m'interroge et je voulais vous interroger également là-dessus sur le sens, l'opportunité de cette initiative. Regardez ce reportage. Comment ?
La légalité même.
La légalité. Écoutez, on va en parler dans un instant. Je vous propose de regarder ce reportage de Michael Chailloux et je vous donne la parole.
21 000 étudiants sont inscrits à l'université de Rennes 2. C'est le service culturel qui propose pour la deuxième année consécutive cet atelier ouvert exclusivement aux femmes.
C'est pour remédier justement à une discrimination des faits des femmes dans ces carrières professionnelles.
Objectif de la formation, maîtriser un logiciel de musique actuel nommé Ableton Live. Le site internet de l'université précise clairement que seules les femmes sont acceptées, ce qui a interpellé le syndicat étudiant uni, classé à droite.
Pour nous, c'est le wokisme qu'on dénonce depuis des années maintenant. Je ne comprends pas que dans le principe de l'université, qui en plus se dit ouverte, inclusive, refuse comme ça une partie de la population.
Le principe de discrimination positive qui a guidé l'université pour proposer cet atelier exclusivement féminin fait débat chez les étudiants.
Dans un milieu comme la musique, où justement c'est assez monopolisé par les hommes, c'est important de pouvoir proposer des opportunités aux femmes.
Je trouve que c'est, encore une fois, catégoriser les gens dans un milieu, alors qu'en fait pour moi, chacun doit faire ce qu'il veut.
La formation débute à la mi-octobre. Elle accueillera une quinzaine de femmes au maximum.
On peut entendre que certaines réunions qui traitent de thématiques exclusivement liées aux femmes se fassent avec des femmes qui veulent peut-être parler dans un environnement plus serein. C'est pas ma conception, mais en tout cas, on peut entendre, on peut peut-être en discuter. Là où j'ai un peu plus de mal à comprendre, c'est qu'il s'agit d'un logiciel audio, il s'agit de musique. Dans ce cas-là, on peut aussi revenir sur la séparation filles-garçons à l'école. Enfin, je veux dire, il y a vraiment, là, ça n'a plus de sens de séparer.
On n'arrête pas de dénoncer le séparatisme qui est organisé par certains, qui est voulu aussi par tout ce qu'on a dénoncé tout à l'heure. Mais il est évident que sur ces questions d'accès à certains métiers, on sait que des femmes accèdent plus facilement à certains métiers qu'à d'autres, notamment tout ce qui est métiers scientifiques. Moi, j'avais travaillé sur le numérique. Vous avez beaucoup plus d'hommes que de femmes. Effectivement, régisseur aussi de son, etc., vous avez plus d'hommes. Mais ça ne vous empêche pas de mettre en place une sensibilisation et des formations qui permettent hommes et femmes d'être ensemble. Donc là, on voit bien que tout ça participe à cette idéologie wokiste qui veut absolument séparer les hommes et les femmes sous ces prétextes-là, comme sous d'autres prétextes. Donc c'est extrêmement dangereux parce qu'encore une fois, ça bénéficie aussi à certains qui veulent justement qu'on sépare les hommes et les femmes.
On entend un syndicat dire que l'université est ravagée par le wokisme, c'est le cas ?
Mais oui, c'est très exactement ça, c'est même la définition du wokisme. En fait, on est passé de la lutte des classes à la guerre des sexes et la lutte des races. C'est quand même absolument terrifiant de penser qu'on en est arrivé là, dans l'université, mais pas seulement dans l'université. Ce que ne comprend pas le directeur ou le président de cette université, c'est que faisant ça, il est en train de préparer sa propre perte. Moi, j'ai en mémoire le merveilleux roman d'Abel Quentin, Le Voyant des Tempes, qui décrit très précisément ce qu'est le wokisme et la logique du wokisme. C'est qu'il y aura toujours plus woke que vous. Mmh. Et donc, lui, en ouvrant la porte à ces ateliers non genrés et puis demain à des réunions en non mixité raciale, il se prépare à ce qu'on lui découpe la tête demain. Vraiment, il y a quelque chose de terrifiant et dans les principes, dans la mécanique, et qui va toujours plus loin dans le séparatisme et la guerre des uns contre les autres.
Régis Le Sommier.
Je crois que appliqué à l'université, c'est terrifiant de se dire qu'en 2022, on a une idéologie d'engeance totalitaire, en fait, qui contamine nos cours, qui contamine la pensée de nos étudiants, qui petit à petit s'immisce jusqu'à effectivement à provoquer quelque chose. La révolution tue ses propres enfants, mais c'est un peu le phénomène 1793, c'est-à-dire qu'il va y avoir après, on va dire, bah oui, mais on va accuser, des gens vont vont faire leur autocritique, etc. On va en venir dans des phénomènes qu'on a connus dans des âges très sombres. Je rappellerai qu'il n'y a pas qu'à l'université, malheureusement, que ce phénomène existe. Souvenez-vous, je crois que c'était en mai ou en juin dernier, le conseil municipal de la ville de Lyon, dont le maire est Grégory Doucet, donc élu Europe Écologie Les Verts, proposait de faire des pistes cyclables uniquement réservées aux femmes non genrées. Donc là, on est aussi dans du délire. Hein. Sous prétexte que les hommes ont plus tendance à prendre des vélos que des femmes, il fallait rétablir l'équilibre en interdisant des hommes de certains espaces. Enfin, voilà. Et là, encore une fois, comme l'a dit Benjamin, on va aller toujours plus loin. Et les gens qui mettent qui ouvrent la porte à ça, ça, n'ont pas forcément conscience du développement que ça peut avoir in fine.
Mais c'est pour ça que comment voulez-vous que d'autres ne
oui, vous parlez
de ça.
Pour des raisons totalement différentes.
Exactement.
Tout à fait.
Pourquoi pas en fait. C'est ça le problème, c'est que pourquoi pas. Vous avez, moi, quand j'étais déléguée du préfet, j'avais des demandes d'associations qui voulaient être soutenues financièrement par l'État pour qu'il y ait du sport pour les femmes exclusivement. Vous voyez ? Mais finalement, quand vous voyez ça, vous dites bah, pourquoi pas ? Alors bien sûr, on refusait, mais pourquoi pas ? Donc c'est sans fin et c'est extrêmement dangereux parce que ça.
Jusqu'à quel point on continue à séparer les activités des uns et des
évidemment,
autres, et des communautés, et des genres.
Il y a des choses aussi qu'on a acceptées. Rappelez-vous ce qui s'est passé, je crois que c'était l'UNEF qui avait organisé des réunions en non-mixité en excluant les Blancs. Vous vous rendez compte ?
Benjamin Morel.
Si les Blancs font la même chose, alors ça c'est intéressant.
Bien sûr.
Mais oui.
Vous parliez du cadre légal tout à l'heure, Benjamin Morel.
Si vous voulez, le droit là-dessus est relativement simple. Vous avez normalement une égalité stricte de tous les citoyens devant le service public. Si jamais vous avez une modulation de cette égalité, c'est-à-dire si jamais vous considérez que vous pouvez avoir, pour parler simplement, un certain nombre de discriminations, ce n'est qu'au regard d'un intérêt général. Si demain, par exemple, vous avez des circonstances économiques qui font que des enfants ne peuvent pas avoir accès à la musique, vous allez pouvoir permettre à ces enfants d'avoir accès à la musique gratuitement, alors que pour les autres, ça va être payant. Là, on est dans un intérêt général, il s'agit que tout le monde ait accès à la musique. Dire que tout d'un coup, le fait d'appartenir à un genre, le fait d'avoir telle origine ethnique, etc., vous empêche d'avoir accès à la musique, et que tout d'un coup, au nom de ce principe-là, on devrait interdire à des hommes, peut-être demain à des blancs, etc., d'avoir accès aux mêmes cours, c'est un vrai problème, parce que du coup, vous créez une discrimination. Et en effet, ensuite, où est-ce que ça s'arrête ? C'est-à-dire à quel moment vous ne subdivisez pas la population au regard de ce principe-là. Normalement, là, pour moi, il y a un vrai, vrai sujet de l'égalité. Il faudrait voir ça à la loupe. Mais si jamais il y a des syndicats qui sont sur l'affaire, à mon avis, le juge administratif sera intéressé de voir ce qu'il en est. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, sur le second point, je rejoins ce qui a été dit. L'université, qu'on met souvent sous les projecteurs, et j'en viens, n'est en réalité qu'une forme de microcosme de quelque chose qui est beaucoup plus profond. Vous avez des enfants, vous avez aujourd'hui des étudiants qui arrivent, ils ne biberonnent pas au wokisme avec nous. Ils sont déjà wok. Pourquoi ? Parce qu'ils ont biberonné aux plateformes de streaming, parce qu'ils ont eu accès à travers des associations, à travers également tous des produits culturels à ces idéologies-là. Et donc, à partir de là, dès le moment où ils entrent à l'université, je dirais que le mal est fait.
On va marquer une courte pause à 13h. Restez avec nous sur CNews et dans Midi News. Ne manquez pas notre reportage. Une plongée au cœur de l'enfer du crack Porte de la Villette à Paris. Un an tout pile après l'arrivée des toxicomanes évacués des Jardins des Halles. Quelle est la situation sur place ? Pour vous donner une idée, regardez cet extrait du reportage qui vous attend. Et voilà, rendez-vous à 13h pour le reportage complet, une situation catastrophique. Et puis notre débat, peut-on encore attendre quelque chose des pouvoirs publics ? Je le rappelle, ce problème dure depuis 20 ans dans la capitale. A tout de suite sur CNews. De retour dans Midi News, j'ai toujours le plaisir d'échanger avec Naïma M. Fadel, Régis Le Sommier, Raphaël Steinville et Benjamin Morel. Dans un instant, on va évoquer l'enfer du crack à Paris, encore et toujours. On a un reportage exceptionnel à vous montrer, tourné par Fabrice Elsner et Jeanne Cancard. Ce sera juste après le journal, présenté par Olivier de Kerenfleck. Rebonjour Olivier.
Rebonjour Anthony, rebonjour à tous. Des crimes de guerre commis en Ukraine, selon les enquêteurs de l'ONU. Jusque-là, l'Organisation des Nations Unies parlait de soupçons. La commission d'enquête de l'ONU sur l'Ukraine a été lancée en mars par le Conseil des droits de l'homme. Et depuis, 27 villes ont été visitées. 150 victimes et témoins ont été entendus.
Sur la base des preuves recueillies par la commission, celle-ci a conclu que des crimes de guerre ont été commis en Ukraine.
En France, l'épidémie de Covid repart à la hausse. Les épidémiologistes préviennent, le virus circule pour le moment toujours activement. Les détails tout de suite avec Aminata Demé.
Le nombre quotidien de cas positifs a quasiment doublé en 2 semaines et dépasse désormais les 30 000 en moyenne sur 7 jours. Rien de surprenant pour cet épidémiologiste.
C'était attendu, nous savions que nous aurions cette recrudescence à la rentrée. Le virus n'a jamais cessé de circuler pendant tout l'été.
La rentrée scolaire semble porter la dynamique de cette épidémie, le rebond étant particulièrement fort chez les jeunes de moins de 16 ans.
c'est vraiment les enfants de primaire et qui sont très très fortement touchés. Et bien sûr, on aurait pu éviter l'intensité de ces reprises épidémiques si on avait un peu mieux vacciné les plus jeunes.
Face à cette recrudescence, ce professeur appelle à la vigilance des personnes âgées.
En l'absence de mesures barrières, on va forcément avoir un certain nombre de formes sévères et il faudrait les éviter justement en incitant toutes ces personnes à risque à se faire vacciner le plus tôt possible et sans attendre, comme le font beaucoup, les nouveaux vaccins.
Pour rappel, la Haute Autorité de Santé a donné mardi son feu vert à 3 nouveaux vaccins adaptés à Omicron pour une nouvelle campagne de rappel courant octobre.
Santé toujours et ce chiffre. Chaque année, 28 millions de rendez-vous médicaux sont gâchés en France. C'est une information publiée ce matin par Le Parisien. Les patients réservent une consultation, mais ils n'y s'y rendent pas. Et chaque jour, ça représente 2 rendez-vous perdus par médecin. Les explications d'Augustin Donadieu.
Il est souvent compliqué d'obtenir un rendez-vous chez eux. Pourtant, les médecins constatent de plus en plus de consultations manquées. En moyenne, 2 rendez-vous chaque jour.
Ce que l'on peut constater de façon unanime, c'est que les rendez-vous non honorés, ce sont les nouveaux patients. Donc ils ne nous connaissent pas, ils ne peuvent avoir aucun grief.
Outre l'impolitesse et le temps perdu pour les praticiens, c'est surtout les patients eux-mêmes qui paient le prix de ces quelques 28 millions de rendez-vous non honorés chaque année en France.
Pour les patients, c'est une perte de chance éventuelle, puisque vous pouvez avoir besoin de façon urgente d'un médecin et vous n'arrivez pas à en trouver, alors même qu'il y a des rendez-vous de libre. Si on réglait cette problématique, on libérerait entre 2 et 5 rendez-vous par jour et par médecin. Cette problématique, ça représente l'équivalent de 4 000 à 8 000 médecins sortis du soin chaque jour.
Selon certains médecins, les plateformes seraient à l'origine de cette déresponsabilisation des patients. Il réclame des sanctions.
Peut-être faut-il taper au portefeuille, alors de façon symbolique, il ne s'agit pas de prendre une grosse somme au patient, mais de façon symbolique, et que cette somme-là doit aller à un fonds, qui est un fonds dirigé sur la résolution des déserts médicaux et de l'accès aux soins.
Autre proposition des praticiens, le prépaiement sous forme d'empreinte bancaire, comme cela s'est généralisé dans la restauration.
Début août, je pense. Ah, d'accord.
Place au débat dans un instant dans Midi News avec Anthony Favalli et ses invités. Mais avant, cette page de l'histoire du tennis qui se tourne puisque Roger Federer joue son dernier match aujourd'hui à Londres. C'est la chronique sport.
Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes.
Sector, no limits.
Tant de fois opposés, et pourtant l'histoire se terminera ainsi, main dans la main. Roger Federer a choisi son dernier coup de raquette et pour ce soir, en double, aux côtés de son plus grand rival. Federer-Nadal, ultime alliance pour une dernière danse. Cette rivalité aura fait vibrer le monde du sport pendant 18 ans. Leur duel a illuminé 9 finales de Grand Chelem. Pour ne pas être ému à l'idée que dans quelques heures, Roger Federer ne sera plus un joueur de tennis professionnel, que dans quelques heures, du duel Nadal-Federer ne resteront plus que les souvenirs.
Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes.
Sector, no limits.
C'était il y a tout juste un an, les toxicomanes des Jardins des Halles à Paris étaient évacués pour être déplacés ailleurs dans la capitale, cette fois du côté de la Porte de la Villette. Là-bas, la situation est déplorable, le quartier est désormais gangréné par le trafic de crack, les agressions, la prostitution. Nous nous sommes rendus sur place pour vous montrer aujourd'hui l'étendue des dégâts. On est également allé du côté des Jardins des Halles aussi pour voir si les habitants ont retrouvé la paix. Reportage signé Fabrice Elsner et Jeanne Cancard.
C'est la nuit et le jour, oui. Parce que moi-même, on ne pouvait plus y passer. Enfin, on y passait avec réticence.
Depuis le départ des consommateurs de crack il y a un an, Françoise ose enfin revenir dans le jardin des Halles, où les animaux ont remplacé les toxicomanes, délogés de force. Mais à seulement 2 kilomètres plus au nord, on replonge dans l'enfer du crack, Porte de la Villette, où ont été déplacés les toxicomanes. Nuit et jour, ils achètent et consomment cette drogue bon marché.
Ça coûte 10 euros, c'est même pas un gramme.
Sous emprise, des toxicomanes déambulent dangereusement entre les voitures. À la vue de notre caméra, l'un d'eux nous jette une bouteille en verre. Devant ce supermarché, quotidiennement, des bagarres éclatent. Il y a quelques jours, le gérant a été blessé par l'un des consommateurs de crack et porte désormais des gants.
C'est pour me protéger le minimum. Souvent, les gens, ils sont très violents. On a déjà eu des femmes, des hommes qui sortent des couteaux, qui nous menacent.
Pour tenter de trouver enfin une solution durable pour les riverains et les toxicomanes, une réunion doit avoir lieu début octobre entre le nouveau préfet de police de Paris et les maires concernés par le fléau.
La situation complètement surréaliste. Est-ce que les habitants de ces quartiers peuvent encore attendre quelque chose des pouvoirs publics ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça fait 20 ans que ça dure, concrètement, et qu'on avait la colline du Crac au départ, Porte de la Chapelle, ensuite Place Stalingrad, les Jardins des Halles, et désormais la Porte de la Villette. C'est toujours le nord-est de la capitale qui est, qui subit ces désagréments. Est-ce qu'on peut encore attendre quelque chose aujourd'hui des pouvoirs publics, Raphaël Steinville ?
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on peut comprendre le désespoir de ces riverains, en dépit des promesses et de Gérald Darmanin et du préfet de police qui s'est engagé en un an à régler ce problème à Paris. C'est vrai, vous le disiez, ça fait des années que ça dure, ça fait des années qu'on commente ces images dramatiques et qu'aucune solution pérenne n'a été trouvée. Donc on voit que ce n'est pas seulement...
Mais il faut y croire quand on nous dit dans un an ce sera réglé, parce qu'on nous fait le coup à chaque fois.
Il faut une énergie énorme, mais ce n'est pas seulement un problème de santé publique, et ça a déjà été évoqué mille fois, c'est aussi un problème qui est lié à l'immigration. Et donc si on ne prend pas à bras le corps tous ces sujets, on ne viendra pas au bout de ce problème de la colline du Trac qui migre dans Paris, dans le nord de Paris, année après année.
Justement, il est crédible, Gérald Darmanin, quand il nous dit qu'il va se rendre en Afrique de l'Ouest, dans les pays d'où viennent ces dealers. Alors, encore faut-il savoir réellement d'où viennent ces dealers, puisque évidemment, on ne connaît pas véritablement leur origine. Est-ce qu'il est crédible quand il dit qu'il va se rendre dans ces pays?
À un moment, il y avait toute une filière sénégalaise.
L'Afrique de l'Ouest,
il y a Sénégal, il y a plusieurs pays et on ne sait pas à chaque fois d'où ils viennent. Alors, est-ce qu'à un moment donné, on peut croire Gérald Darmanin quand il dit qu'il va obtenir des laissez-passer consulaires pour pouvoir les renvoyer chez eux?
Quand bien même il obtiendrait ces fameux laissez-passer consulaires, on voit que ce n'est qu'une étape. C'est-à-dire que il y a encore de multiples recours à ces clandestins qui sont également des trafiquants de drogue ou des drogués qui s'opposent ou qui en tout cas freinent leur retour dans leur pays d'origine. Donc ce n'est qu'une part du problème. Il faut aussi à la source limiter drastiquement ces flux venant de ces pays-là, et pas parce que aujourd'hui Gérald Darmanin et Emmanuel Macron se félicitent d'avoir obtenu de l'Algérie, du Maroc, en échange de laisser passer consulaire davantage de visas pour ces pays, mais ces flux ne cessent de croître pour toujours moins de clandestins qui sont renvoyés chez eux.
Régis Le Sommier.
Non, moi je crois que le problème, enfin un des problèmes, je dirais, récurrents de cette situation, vous avez évoqué 20 ans de présence justement de ce
cocktail. Oui, ça a commencé au début des années 2000, Porte de la Chapelle.
Voilà. Voilà, de la Jamaïque.
De ce cocktail consommateur de crack, dealer, le tout perturbant toute la vie sociale de ces quartiers. Je crois que c'était aussi un problème de communication, ou en tout cas un problème d'antagonisme entre l'État et la mairie de Paris. On l'a vu, là, on nous a promis que les choses allaient changer, mais on a vu quand même pendant des années une sorte de désintérêt ou une manière de la part de la mairie de Paris de refuser.
Puis chacun se renvoie la balle, c'est-à-dire la préfecture et la mairie de Paris.
Au niveau de la préfecture. Donc là, on a clairement ce qu'on a pu avoir autre part, avec la violence, par exemple, à Lyon, avec une dichotomie entre le ministre de l'Intérieur et le maire.
C'est donc la même chose.
Il faut quand même que, je dirais qu'il y ait au moins une harmonie qui se mette en place si on veut espérer résoudre le problème. Et encore une fois, c'est un problème extrêmement compliqué. Il y a eu plusieurs tentatives aussi pour le résoudre. Hein. Souvenez-vous l'affaire des salles de shoot qu'on essayait de justement. Il y a eu aussi un projet de déplacer encore. Alors les jardins des Halles, Stalingrad.
Vous avez vu, à chaque fois qu'on a parlé de projet d'ouverture d'une salle de consommation à moindre risque, pour l'intituler exact,
dans le quartier,
évidemment, problème. Personne ne veut ça en Bâtie.
Mais les salles de shoot sont aussi un problème, parce que aux alentours, ils ne rentrent pas pour se shooter dans la salle, mais en général, ils prennent ce dont ils ont besoin et se shootent à l'extérieur, au vu au regard de tout le monde. En plus, le périmètre qui a été mis en place...
Des zones blanches où la police n'intervient pas, justement, pour faire en sorte que ces gens viennent dans les salles de consommation s'ils ne viennent pas.
Et ça permet aux dealers de
et donc, les dealers vont dans ces zones-là, et c'est ces quartiers qui subissent, bien sûr.
Donc, c'est sans fin. Et quand on me dit, moi, qu'il y a un problème d'antagonisme entre l'État et la mairie de Paris, entre le préfet et la mairie de Paris, je dis, mais mon Dieu, qui gouverne ce pays ?
Non, mais
on ne peut pas être d'autorité décider les choses. Le gouvernement peut d'autorité décider les choses. Il peut même... Enfin, on arrive bien à mettre des villes sous tutelle. Donc c'est ça qui est gravissime. Et on voit que... Vous parliez tout à l'heure, Benjamin, d'égalité de traitement du citoyen, d'équité de traitement du citoyen. Mais là, on voit bien que les citoyens sont pris en otage. C'est extrêmement effrayant ce que vivent les citoyens au quotidien, ainsi que les femmes, notamment, qui se font harceler, les enfants, etc. Il y a 20 ans, ça a commencé. Mmh. Aujourd'hui, vous avez vu comment ça s'est développé. Vous avez des mineurs. Vous parlez d'illégalité, Raphaël, d'arrivée illégale, notamment. Moi, je voudrais souligner que vous avez beaucoup de mineurs, dits isolés, qu'ils soient isolés ou pas, qui sont enrôlés dans ce deal. Aujourd'hui, et avec aussi la prostitution, c'est-à-dire que vous avez des tas de choses qui découlent aussi de cette réalité-là, qui est une réalité dramatique pour tout le monde, en fait.
Mais je crains qu'on se trompe un petit peu de bataille en se focalisant sur les dealers. Attention, je dis pas qu'il faut les laisser tranquilles. Mais grosso modo, quand vous voulez assécher un trafic de drogue, il y a deux stratégies. Soit vous asséchez la filière, soit vous asséchez la consommation. Or là, le problème avec la méthamphétamine, c'est pas le cannabis. C'est-à-dire que vous avez une drogue extrêmement dure, sur laquelle n'importe qui est dépendant sera capable de commettre des crimes, etc., pour récupérer l'argent suffisant pour acheter sa dose, et qui plus est, n'est pas si difficile que ça à produire. Et n'a pas forcément d'être produit extrêmement loin pour ensuite être revendu. Donc vous pouvez démanteler une filière au vu du magot qu'il y a à la clé.
Quelle est la solution ?
J'y viens, mais au vu du magot qui est en jeu, une autre se construira. Le problème, et vous ne pouvez à mon avis agir à long terme que là-dessus, c'est la consommation. Et là, il y a deux solutions. Un, une obligation de soins. Parce que ces gens-là ne se désintoxiqueront pas tout seuls. Vous devez les isoler. La salle de shoot est une mauvaise situation, une mauvaise solution. Vous devez les isoler dans un univers qui va être un univers médicalisé et les garder tant qu'ils ne sortent pas. Ça pose des problèmes de légalité et donc il faut faire évoluer là-dessus notre droit. Et de l'autre côté, eh bien...
qu'on peut prendre en charge toutes ces personnes-là ?
Oui, parce qu'on ne parle pas malgré tout d'une consommation massive. C'est-à-dire qu'on n'a pas... 3 millions de personnes dépendant au crack
très localisé,
en France.
Mais c'est pas non plus massif.
C'est localisé, c'est relativement limité en termes de nombre. Donc aujourd'hui, ça pose un problème de santé et de sécurité publique. Et je crois que là-dessus, notre droit doit évoluer. Et évidemment, du coup, il faut mettre les moyens derrière pour avoir des centres.
Est-ce que vous êtes d'accord sur cet aspect santé publique ?
Tout à fait. Et ça ne rentre pas dans le business de la drogue. Ça rentre en partie, mais de façon, à mon avis, très, très minime par rapport au package qui est à peu près 3 milliards d'euros, le marché de la drogue, et pour moitié de la marijuana et du cannabis, mais qui, lui, tient véritablement certaines cités. C'est-à-dire l'économie de la drogue tient certaines cités et en découle des comportements, mais là, hiérarchisés, des dépendances, des pressions, tout un comportement social et une économie qui est liée au trafic de drogue. Là, en revanche, on est dans un trafic de drogue, je dirais, c'est la drogue du pauvre. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, la méthamphétamine ou le crack, c'est la cocaïne du pauvre. On a vu ce caillou qui c'est quoi, 10 euros ou quelque chose comme ça. Donc on peut l'avoir à pas cher et ça crée en effet un état de dépendance
immédiat.
Tout de suite, on est dans des situations...
D'ailleurs, la première dose est généralement offerte.
J'avais eu l'occasion d'enquêter aux États-Unis, parce que évidemment ça a été extrêmement développé là-bas, sur la méthamphétamine en particulier. C'est une drogue dont le premier shoot et la première état est tellement fort que vous allez passer votre temps à essayer de retrouver cet état que vous avez eu la première fois. Donc c'est quelque chose jusqu'à ne plus manger, ne plus boire, jusqu'à perdre vos dents. Enfin, c'est un degré de décrépitude humain absolument sidérant. Le crack étant à peu près la même chose. Et de cette dépendance-là, on n'en revient pas. Ou en tout cas, on a énormément...
Justement, qu'on revienne sur la question de l'obligation de soins. Vous parliez d'obligation de soins. Voilà. C'est ce que propose, quelque part, la mairie de Paris, en plus des salles de consommation. Parce que c'est ce qu'ils voulaient faire. C'est-à-dire des salles de consommation à moindre risque avec un accompagnement médical proposé.
Avec l'isolation. C'est-à-dire que c'est
sans clé, quand même. J'avais envie de vous dire, encore une fois, si on met des centres... Des soins médicalisés à côté de ces salles de consommation à moindre risque, de la même façon que les salles de shoot, personne n'en veut de toute façon.
Les drogues de substitution, en tout cas pour essayer de gérer ces consommations, le Subutex et tout ça, ne font que différer le problème. Et même, il y a des trafics sur ces drogues de substitution. En revanche, si on veut vraiment traiter les pathologies de ces toxicos, il faut les traiter, il faut les sevrer. Et ça suppose, malheureusement, pour eux, mais c'est indispensable, des structures fermées. Parce que c'est.
Et ça veut dire des lieux à l'écart des habitations. Aussi
oui, à l'écart des
habitants. Enfin, s'ils peuvent pas sortir, a priori,
ça peut être attenant aux hôpitaux.
Oui, bien sûr.
Je crois que la région Île-de-France proposait de soutenir la construction de lieux qui seront des lieux médicalisés. Moi, je voudrais juste souligner quelque chose par rapport aux consommateurs. Les consommateurs, en fait, les dealers sont aussi les consommateurs. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire les migrants, aujourd'hui, qui sont là, ce sont eux-mêmes des dealers et aussi des consommateurs. C'est ça le problème, c'est que vous avez le même profil en fait sur ces espaces-là. C'est-à-dire vous avez ceux qui vont dealer, qui vont vendre le crack, ils les vendent aussi à ces migrants.
Il y a même des choses terribles, des clandestins qui sont venus en France qui n'étaient pas du tout concernés par la drogue, qui sont tombés dans la drogue en côtoyant ces milieux-là.
Exactement. Voilà. Et il faut faire attention aussi à ce qui se passe aujourd'hui avec le crack. C'est vrai que c'est localisé sur Paris. Mais ce qu'on peut constater, c'est que c'est en train d'arriver dans les quartiers.
Ah oui.
Parce que comme vous dites, c'est la drogue du pauvre. Et c'est en train d'arriver dans les quartiers.
Les campagnes surtout.
Oui, ça m'inquiète énormément. Ça commence et je voudrais vraiment qu'on puisse alerter.
Un laboratoire de crack, vous pouvez le faire chez vous. La seule risque, c'est que ça peut exploser, vous pouvez en mourir. La méthamphétamine, c'est pareil, c'est une chimie qu'on peut faire à domicile.
Raphaël Steinville parlait tout à l'heure de se réapproprier finalement notre politique migratoire. La source, selon vous, du problème, est-ce qu'on en a les capacités aujourd'hui ?
Non, c'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment tenir les deux bouts. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une politique sanitaire à avoir d'un côté, et de l'autre, il faut vraiment tenir les deux bouts, et donc bien évidemment avoir une politique migratoire beaucoup plus ferme, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est quasiment incapable de renvoyer chez eux ces clandestins. En revanche, on continue à en accueillir toujours plus. Donc il va falloir réfléchir à des moyens de limiter drastiquement ces flux.
Il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique affichée de nos dirigeants de l'exécutif là-dessus.
Écoutez, Emmanuel Macron aujourd'hui,
ils en parlent davantage. Alors est-ce qu'ils en parlent bien ?
Non, il y a deux discours. Il y a celui de Gérald Darmanin qui se montre ferme, qui voudrait raccourcir les procédures, voire les limiter totalement pour pouvoir expulser les clandestins. C'est-à-dire que grosso modo, les déboutés du droit d'asile. Dès lors qu'ils sont reconnus comme déboutés, ça vaut au QTF. Et de l'autre côté, vous avez Gérald Darmanin qui veut installer et répartir sur l'ensemble du territoire.
Emmanuel Macron, vous voulez dire.
Emmanuel Macron qui veut les répartir sur l'ensemble du territoire dans l'attente de leur papier, que leur situation se régularise. Mais dès lors qu'ils sont installés sur le territoire, rien ne les empêche d'avoir une famille. Et en fait, on voit très bien que c'est à la fois la politique familiale, le droit du sol, tout un tas de pans de notre politique migratoire qu'il faudrait revoir si on veut vraiment pouvoir tenir encore le choc de cette immigration qui devient plus que problématique pour notre pays.
Vous êtes d'accord avec cette incohérence relevée par Raphaël Steinville ?
Complètement. De toute façon, aujourd'hui, même quand vous arrêtez un clandestin, il n'a pas ses papiers, il est clandestin, vous ne pouvez pas, je veux dire, par exemple, le mettre tout de suite en centre de rétention, etc. C'est-à-dire qu'il va avoir le droit d'avoir des ONG, il va faire des recours, etc. Le problème, c'est que c'est sans fin. Prenons les mineurs non accompagnés. Aujourd'hui, c'est un vrai appel d'air, notre pays. C'est pour ça que souvent, beaucoup se font passer pour des mineurs isolés. Alors que 70% apparemment ne sont pas des mineurs isolés, parce qu'il y a une prise en charge et que quand ils arrivent à soi-disant 18 ans, ils ont le droit de s'installer dans notre pays. Donc déjà, si on avait un message en disant toute personne arrivée illégalement ne pourra jamais être régularisée, mais ça, Le gouvernement ne veut pas, surtout pas.
Non, mais on gère les conséquences. Un dernier mot.
On gère les conséquences, mais jamais les causes.
N'oublions pas qu'est-ce qui intéresse les migrants de par le... Moi, je connais bien l'Afghanistan. J'ai discuté avec beaucoup d'Afghans là-bas qui voulaient et qui souhaitaient émigrer en Europe. C'est l'Angleterre. Donc, c'est l'Angleterre. Donc, là, le vrai problème, c'est que, comme l'Angleterre, ben, il y a cette mer de la Manche à franchir et qu'elle est difficile à franchir, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils restent chez nous à attendre. Sans aérer en fait, et ils tombent dans une économie parallèle et ils tombent dans ce qu'on voit à Stalingrad et autres. Donc la question, c'est l'attractivité de l'Angleterre, le fait que ce pays n'impose pas de papiers, que ce pays offre des possibilités d'emploi, rend à l'autre bout du monde l'Europe attractive. C'est pas vraiment en Allemagne ou en France qu'ils ont envie d'aller.
On voit toute la complexité de ce problème.
L'attrait de l'Angleterre.
On va, si vous le voulez bien, marquer une courte pause. On va revenir dans un instant, et justement, on va beaucoup parler avec vous, Régis Le Sommier. Vous revenez d'Ukraine.
Tout à fait.
Voilà, on va parler de ce simulacre, j'ai envie de dire, de démocratie. Tout y est, les urnes, les bulletins de vote, on y croirait presque aujourd'hui. La Russie organise dans 4 régions de l'Est et du Sud de l'Ukraine des référendums d'annexion. Objectif, en faire des territoires russes, bien évidemment. Et vous allez nous commenter tout ça dans quelques instants. Ce sera juste après la pause. À tout de suite. De retour dans Midi News, je suis toujours jusqu'à 14h avec Benjamin Morel, Raphaël Steinville, Régis Le Sommier avec qui on va parler d'Ukraine et Naïma M. Fadel, essayiste. Et nous sommes aussi avec Audrey Berthaud, tiens, pour le rappel de l'actualité. Bonjour Audrey.
Rebonjour Anthony. Cédric Jubilard, soupçonné d'avoir tué son épouse Delphine, a de nouveau été interrogé aujourd'hui à Toulouse. Les juges n'ont plus de questions. Ce nouvel interrogatoire n'a rien apporté du tout, a estimé l'un de ses avocats. En juin 2021, Cédric Jubilard a été mis en examen pour homicide volontaire et emprisonné en isolement près de Toulouse. Le bilan du naufrage au large de la Syrie s'élève à 73 morts. Leur bateau parti du Liban a coulé, selon le ministre syrien de la Santé. C'est le bilan le plus meurtrier de ces dernières années en partance du Liban. Ce pays devient de plus en plus un point de départ d'embarcations illégales de migrants. Enfin, la crise énergétique en France. Certains monuments municipaux cesseront d'être éclairés à partir de 22h ce soir à Paris. Parmi les monuments les plus imposants, la capitale, l'hôtel de ville, la tour Eiffel également sera désormais éteinte au départ du dernier visiteur à 23h45, comme l'avait annoncé le 13 septembre la maire de Paris, Anne Hidalgo.
C'est donc aujourd'hui que débutent des référendums dans 4 régions du sud et de l'est de l'Ukraine, des référendums d'annexion à la Russie, un simulacre de démocratie qui laisse assez peu de doutes sur le résultat, des scrutins organisés à la hâte, signe certainement de l'escalade du conflit, peut-être aussi d'un pouvoir russe qui est dans l'impasse. Vous allez me dire ce que vous en pensez sur ce plateau, et notamment Régis Le Sommier, puisque justement vous revenez d'Ukraine, vous avez tourné un reportage pour Canal+. Mais avant de vous donner la parole, les explications avec Thomas Chama. Et on en discute juste après.
Les isoloirs et les urnes installées, les bulletins de vote imprimés et découpés, les électeurs des 4 régions ukrainiennes occupées par l'armée russe commencent à aller voter depuis ce matin. Pendant 5 jours, les citoyens des provinces de Donetsk, Zaporijja, Kherson et Louhansk sont appelés à aller voter pour ou contre l'annexion de leur territoire par la Russie. Malgré le départ de nombreux habitants de ces régions, ceux qui sont restés disent être favorables.
La Russie a toujours été notre patrie, si vous voulez vraiment le savoir. Et sans elle, nous n'avons tout simplement plus personne. L'Ukraine nous a abandonnés depuis longtemps.
Je crois que tout dans la vie va changer avec le référendum. Parce que si nous sommes enfin unis à la Russie, tout sera complètement différent.
Des réponses positives à la question, qui ne font pas l'unanimité dans le pays. Loin des territoires occupés par la Russie, on ne partage pas le même point de vue.
Ce référendum ne donnera pas le dessus à la Russie. Tout cela n'est qu'absurdité, bluff et manipulation politique pour nous effrayer, ainsi que les pays occidentaux avec leurs trucs nucléaires.
J'ai pris une décision pour moi-même. Soit l'Ukraine, soit la mort. Concernant le référendum, qu'y a-t-il à dire? Des actions d'une personne malade.
En pleine contre-offensive ukrainienne, les habitants de certaines régions du pays espèrent que la tenue de ces référendums permettra de faire revenir la paix. De leur côté, les autorités ukrainiennes ont d'ores et déjà annoncé qu'elles ne reconnaîtraient pas les résultats de ces élections.
Bon, Régis Le Sommier, dites-moi si je me trompe, mais j'ai le sentiment que c'est une belle parodie de démocratie, c'est plutôt bien fait.
Disons que il faut se mettre, moi dans mes reportages, j'ai privilégié depuis toujours de donner la parole en fait aux habitants et aux gens qui vivent dans ces régions. Et j'y suis pas, je viens d'y passer 3 semaines et en 3 semaines j'ai vu pas mal de choses. D'abord, je veux faire un distinguo entre ces 4 régions. Elles sont très différentes. Il y en a 2 qui sont différentes et les 2 autres sont différentes, même si elles ont toutes leur particularisme. Il y a Donetsk et Lugansk qui sont
donc là à l'est.
Donc à l'est, en guerre depuis 2014.
Ouais, bien sûr.
Donc c'est pas du tout pareil. La perception de ces référendums et de cette reconnaissance par la Fédération de Russie que Zaporijja et Kherson qui ont été envahis, conquis par l'armée russe depuis le 24 février. Voilà. Donc on est globalement sur l'ensemble de ces 4 régions dans des zones russophones. Il y a encore des gens qui parlent ukrainien, hein. Il y a une minorité qui parle ukrainien aujourd'hui, mais il y a une majorité qui parle russe. Et quand on entend effectivement le point de vue des gens de Kiev, ce point de vue-là, vous pouviez l'avoir, et des gens de Donetsk, vous pouviez l'avoir bien avant le 24 février. Ces 2 parties de l'Ukraine vivent séparément depuis 2014, depuis Maïdan.
Depuis plusieurs mois, il y a eu aussi énormément de déplacés.
Oui, aussi. Ah. Mais pas tellement du côté de Donetsk, puisque ces zones-là sont la DNR, la LNR, donc ces 2 républiques existent et elles ont été reconnues par la Russie très récemment. Mais ce que je veux dire, c'est que cette réalité de la guerre et cette réalité de la division entre Kiev et l'Est, elle est très ancienne. C'est de dire aujourd'hui même, d'un point de vue de la victoire de l'Ukraine, on va reconquérir le Donbass. D'un point de vue, on va reconquérir, mais il va se passer le même problème si l'Ukraine militairement gagne le Donbass. Il va passer le même problème que dans d'autres régions conquises par les Russes, c'est-à-dire que les gens sont majoritairement russes, ils veulent être russes. Je parle de Donetsk, et ceux qui ne voulaient pas sont partis ou ont rejoint les autres territoires.
Vous nous dites, en gros, c'est vain d'essayer de récupérer ces régions de l'Est de l'Ukraine, parce qu'on risque d'inverser le problème en fait plus tard.
On risquera de toute façon d'inverser le problème, et c'est deux entités qui fonctionnent de façon diamétralement opposée depuis très longtemps et depuis Maïdan, depuis la révolution de Maïdan, depuis ce qui s'est passé après, et qui vivent dans un état de guerre. Imaginez-vous Donetsk, je vous donne quelques exemples. Moi, j'y étais donc il y a 5 jours. La ville de Donetsk, le bombardement et le bruit du bombardement est un bruit permanent. Le front est à 5 km de la ville. Il n'a pas bougé d'ailleurs depuis le 24 février, même si c'est pour ça, c'est là que ça a commencé. Les habitants vivent en permanence avec la psychose de recevoir des obus dans le centre-ville. Mon hôtel a été bombardé 2 heures avant que j'y arrive, c'est-à-dire que la porte en verre de l'hôtel était brisée quand je suis arrivé à l'hôtel. Ça fait partie des choses du quotidien. Et de l'autre côté, la ville qui est contrôlée, la ville de Malinka, qui est contrôlée par les Ukrainiens, subit exactement la même chose depuis 2014, encore une fois. Donc, on est dans des positions, Et ça, c'est pour le Donbass. Maintenant, la différence est assez palpable pour ce qui est de l'oblast de Kherson et de celui de Zaporijja.
Donc, puisque, au sud, cette fois.
Voilà. Qui, eux, sont des zones extrêmement, d'ailleurs, fertiles, des zones de collecte de blé. Donc, c'est plus des zones industrielles. Le Donbass est plus un poumon industriel. Là, on est sur de la plaine. On est sur de la culture du blé, des terres très, très riches, les terres ukrainiennes. Et il y a là-bas, un reste, je dirais, de mentalité. Quand vous allez dans des villes comme Mélitopol, par exemple, rien n'a changé par rapport à l'ancien régime. Je ne parle pas du régime ukrainien, je parle du régime communiste qui était avant 91. Il y a des statues de Lénine partout, il y a des monuments aux morts de la Seconde Guerre mondiale partout, et donc on est dans une Ukraine qui reste pénétrée de cet esprit soviétique. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont chercher dans ces référendums ? À l'époque où ils étaient sous contrôle de l'Ukraine, ils se plaignaient régulièrement, ceux avec qui on a discuté nous le disaient, de ne pas toucher leur pension, d'avoir des retards, de ne pas avoir d'aide pour les écoles, de ne pas avoir... Là, ils ont l'impression qu'en rentrant dans la Fédération de Russie, la mère Russie va venir et va leur payer leur pension. C'est leur préoccupation principale. L'Ukraine était un pays pauvre, corrompu. Il faut pas l'oublier. Et l'est toujours, d'ailleurs, pour une partie. On n'est pas dans... Donc, l'idée de revenir dans le giron russe, pour eux, c'est un peu revenir dans l'Union soviétique, en fait.
Raphaël Stainville.
Oui, moi, pour revenir à ce que vous disiez, c'est-à-dire que cette espèce de parodie de démocratie, ces référendums un peu fantoches, je pense qu'on passe un peu à côté de la question. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe la légalité ou non du scrutin, bien sûr, tout le monde a compris que ces scrutins, au regard du droit international, ne sont pas valides. Mais dès lors qu'ils ont lieu, dès lors que ces territoires seront demain partie prenante de cette grande Russie, ça change la donne. C'est-à-dire que on peut dire que ça ne compte pour rien, mais dans l'esprit des Russes, dès lors qu'il y aura une agression, dès lors que ces combats se produiront en terre russe, ça change la donne. Et c'est là où le risque d'escalade est qu'on ne peut pas prendre à la légère.
C'était ma question suivante. C'était l'agenda finalement russe. Pourquoi il s'est accéléré et pourquoi ces référendums aujourd'hui? C'est parce que justement, il y a cette idée sous-jacente derrière d'en faire des territoires. Enfin, sous-jacente.
Bah, on est en train de très clair d'en faire des territoires russes. À une guerre défensive ou demain, dès lors que ces référendums auront eu lieu et de toute évidence auront consacré l'annexion finalement de ces territoires à la Grande Russie, on passe à une guerre défensive et donc avec un risque d'escalade immense parce que...
Là, ça veut dire que en milieu de semaine prochaine ou en fin de semaine prochaine, je ne sais pas dans combien de temps on connaîtra 27. Les résultats exactement, mais 27, il est fort à parier. Alors, ça se finit mardi. Maintenant, c'est pas, est-ce qu'on connaît le résultat le jour même? Je ne saurais pas vous dire.
Non, alors, il va y avoir des gradations suivant les sondages. Effectivement,
je l'ai donné dans le sommaire.
Les deux oblasts de l'Est vont être beaucoup plus massifs et ça va être un petit peu moins suivi et un peu moins une adhésion massive pour Kherson et Zaporizhzhia.
Ça voudra dire concrètement qu'on ne pourra plus revenir en arrière sans risquer un conflit massif et peut-être même mondial.
Il est possible que l'Ukraine regagne des territoires. Actuellement, il y a toujours une offensive en cours, même si elle est plus compliquée, même si elle se déploie différemment et qu'il va y avoir le fameux général hiver qui va arriver, qui va sans doute changer des choses et peut-être figer les fronts. Donc actuellement, on est dans une guerre d'attrition où chaque partie essaye d'asphyxier et l'autre d'attenter à ses ressources. Je vous donne des exemples parce qu'on ne se rend pas bien compte quand on n'est pas là-bas. Il y avait une ferme au moment où on était du côté de Zaporizhzhia où il y a 1000 vaches qui ont été brûlées vives. Pourquoi? Par des frappes. Ils ont frappé la ferme des vaches. Pourquoi? Tout simplement parce que les troupes russes allaient s'approvisionner en lait. Donc c'est ça, une guerre d'attrition. Ça veut dire viser l'adversaire, diminuer ses possibilités. Et les Russes font exactement la même chose. Donc on est quand même dans des fronts qui sont dont le futur est difficile à établir. Il y aura peut-être, de la part des Ukrainiens, si les Ukrainiens ont le dessus, ils vont pouvoir reconquérir. Simplement, comme le disait Raphaël, et c'est tout à fait exact, à partir du moment où ces oblasts auront rejoint sous une forme de république la Fédération de Russie, eh bien, il y aura une attention supplémentaire puisque ce sera un territoire russe.
C'est la question qui arrive derrière. Est-ce qu'on doit craindre la menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine entre les lignes, mais quand même suffisamment clair pour qu'on comprenne qu'il avait...
C'était vraiment un des moments très très forts de mon reportage. Je suis retourné dans Mariupol, j'ai eu le temps de passer près de 2 heures dans cette ville complètement ravagée par les bombardements en mars dernier. Quand j'ai vu le déploiement d'artillerie dont a fait usage la Russie à Mariupol, je me suis brusquement posé la question, je me suis dit... j'ai vu des villes bombardées, j'en ai même vu pas mal, mais en aussi peu de temps, faire autant de dégâts pour pouvoir emporter une ville, ça veut dire que la Russie est capable de le refaire sur Nikolaïev, elle est capable de le refaire sur Odessa, et qu'on n'a absolument pas fini avec la puissance russe. Alors aujourd'hui, l'armée ukrainienne a tiré avantage du fait d'avoir des armes nouvelles de la part des Américains qui lui ont donné une sorte de qui ont fait basculer un certain front et qui lui ont permis de reconquérir. Maintenant, elle ne les a pas de façon massive, elle n'a pas suffisamment de soldats encore qui sachent manier ses armes. La Russie a encore un nombre considérable d'armements et d'équipements. Elle a aussi, il faut pas l'oublier, c'est un pays de 17 millions de kilomètres carrés. On leur dit, oui, les Russes, leur armée est en difficulté, mais ils ont aussi tout leur territoire. Donc ils peuvent très bien, par exemple, faire descendre les régiments de chars qui sont du côté de la Finlande et qui gardent leurs frontières, qui sont de très bons régiments, et les faire descendre sur la sur l'Ukraine. C'est peut-être ce que leur permettra aussi ces référendums.
Je peux juste vous soumettre
question,
un chiffre.
La question, c'est que quand on voit Mariupol, on se dit, est-ce que c'est fini? Est-ce que, comme j'entends dire par certains, ah oui, l'armée russe recule. Oui, l'armée russe recule. Elle a perdu 6000 km² du côté de Kharkiv. Elle a conquis en Ukraine une zone qui équivaut à peu près à 150 000 km². Voilà.
63% de Français, plus de 6 Français sur 10 craignent la menace nucléaire brandie par.
Oui, mais ils ont raison.
Voilà,
c'était tout à fait. Bien sûr.
Et paradoxalement, finalement moins de Français qu'en mars dernier, parce que là, c'était un petit peu plus, ils étaient un petit peu plus inquiets, c'était autour de 73%.
Bah, ils se sont habitués à cette menace.
Ouais, ce que j'allais dire, est-ce qu'il y a un effet Pierre et le loup au bout d'un moment?
Peut-être. Et comme elle ne s'est pas matérialisée, fort heureusement. Ouais. Non, je pense qu'il faut. Et
mais
moi,
est-ce qu'il faut la craindre pour
eux? Je l'ai toujours dit depuis le début. Si je prends Mariupol, je parle de l'artillerie. Mais si je prends ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine, oui, en effet, la Russie est une puissance nucléaire. C'est même la première puissance nucléaire. N'oublions pas, la Russie possède environ 4000 têtes nucléaires. On considère que
il en
environ
faut beaucoup moins pour détruire le monde. Mais
voilà, on considère que dans ces 4000, il y en a 1500 qui sont pas tellement en forme et qui sont pas utilisables. Mais en tout cas, ça lui laisse 2500 et ça reste la première puissance nucléaire mondiale. Faut jamais l'oublier.
Est-ce qu'il est acculé comme le disent certains, Vladimir Poutine? Est-ce que c'est ça qui le rend dangereux comme un? On a entendu cette comparaison d'un chien enragé au fond d'une impasse et qui serait capable de sauter à la gorge de tout le monde finalement.
Bah,
est-ce qu'il est acculé ou pas tant que ça?
C'est tout le problème de savoir ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine. D'aucuns s'y sont essayés. Il y a des spéculations. Depuis le début de ce conflit, on l'a dit malade, on l'a dit qu'il avait perdu la raison, on l'a dit qu'il était contrôlé, qu'il allait être renversé. Enfin, souvenez-vous, je vais faire une comparaison, mais Saddam Hussein, on disait aussi qu'il était malade et qu'il allait être renversé, etc.
Non, donc, il y a toujours cette espèce de soutien aussi clair de l'armée. La Chine, il va devoir mobiliser des réservistes.
Oui, mais la Chine, vous savez, c'est l'opportunisme économique partout. L'Inde, pareil. La Turquie aussi. Chacun, il va de sa partition dans ce nouvel ordre mondial qui est en effet réellement en train de se recomposer. Aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, moi, quand j'étais à Moscou, en discutant avec des hommes d'affaires qui sont là-bas, je précise, étrangers d'ailleurs, pas des Russes, c'est que l'axe qui est en train de se refaire au niveau business, c'est l'axe Moscou-Istanbul-Dubaï. Énormément de choses sont en train de se passer dans les Émirats qui, on le rappelle, n'ont pas condamné l'intervention des Russes en Ukraine pour des raisons précises. Parce que le Dubaï est en train de récupérer un certain nombre de franchises, de sociétés qui vont continuer à commercer avec la Russie. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui, il y a une sorte de réalignement. La Russie,
Elle est en difficulté ou pas, la Russie, finalement?
Mais elle est en difficulté, évidemment, sur le terrain en Ukraine. Oui, elle connaît des problèmes. Elle connaît des problèmes d'archaïsme, elle connaît des problèmes dans les missiles à moyenne portée. Elle n'a pas assez investi là-dedans. Dans les missiles à longue portée, en revanche, elle a des avantages par rapport aux Occidentaux. Il ne faut pas l'oublier non plus. Elle a développé des technologies que nous n'avons pas. Simplement, les Américains ont donné aux Ukrainiens des technologies qui sont rudement efficaces sur le champ de bataille et qui aujourd'hui le prouvent. Maintenant, du point de vue économique, la Russie ne me semble pas à genoux comme le souhaitait Bruno Le Maire au début de l'intervention. Elle n'est pas. Moi, quand la Russie sera à genoux, c'est quand j'irai. Si je vais en Russie et que je vois des gens qui font la queue devant un magasin, là, oui, je me dirais. Et encore, même si ça arrive, souvenez-vous, c'était le cas dans des pays de l'Est. Les queues devant les supermarchés, les boulangeries vides. Donc les Russes aussi sont habitués à ça. Alors la nouvelle génération un peu moins, sans doute, mais la nouvelle génération, elle est partagée. Quand vous discutez avec les jeunes, c'est assez étonnant. Elle est partagée entre ce désir de modernité. Ils ont cette modernité. Ils sont frustrés et n'ont pas honte de le dire, de ne pas avoir la mobilité qu'ont les jeunes dans le monde. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il est, et même les jeunes Ukrainiens, et particulièrement ceux qui sont à la guerre. Je termine juste là-dessus. En revanche, sur la capacité de résister du peuple russe, quand j'ai évoqué avec des soldats la perspective de l'hiver, ils m'ont regardé en souriant et m'ont dit, vous savez, nos grands-parents ont fait le front de l'Est. L'hiver ne nous fait pas peur.
Est-ce que, finalement, ce qui pourrait mener Vladimir Poutine à sa perte, ou en tout cas à un arrêt des combats, c'est la contestation intérieure? On a 300 000 réservistes qui sont appelés à se rendre au combat. On le voit, et on a vu les images ces dernières 24 heures, c'est panique à bord. Tout le monde, beaucoup essayent quand même de fuir le pays, limitrophe.
Reparlons-nous de tout ça dans une semaine et voyons l'état des queues dans une semaine. Ce sera intéressant de voir si cette fuite, tentative de fuite, persiste, si les manifestations persistent dans une semaine, parce que n'oublions pas que les manifestations ont déjà eu lieu au début de l'intervention. Il y avait déjà eu 1300 personnes d'arrêtées. Il y avait déjà eu, souvenez-vous de cette femme très courageuse, cette journaliste très courageuse qui était arrivée à l'antenne et qui avait brandi une pancarte disant qu'elle était contre la guerre. Elle a été jugée, on lui a promis, voilà. Mais il faut voir si ça va se produire, si ça se prolonge. La question des fractures à l'intérieur, c'est toujours le souhait, la spéculation des Occidentaux quand il y a un pays qui est sous la sellette. Malheureusement, et l'histoire nous le prouve, ça se passe assez peu. Bachar al-Assad est toujours au pouvoir. Saddam Hussein a été défait, mais militairement. C'est pas le peuple lui-même qui est venu et qui s'est privé du leader.
Régis Le Sommier, on arrive à la fin de cette émission. Vous revenez d'Ukraine. Vous avez tourné là-bas un reportage. Oui. Il est en cours de montage, j'imagine. On aura le plaisir de le voir quand sur Canal+.
Alors, c'est pas sur Canal+, hein. C'est un média qui s'appelle Omerta. C'est un média d'enquête et de reportage. Et il sortira. Il y aura une grande soirée le 16 novembre au Grand Rex avec la projection de ce documentaire.
Voilà. Très bien. Eh bien, ce sera à suivre, bien évidemment. Et vous aurez l'occasion de revenir.
Absolument, pour en parler et peut-être merci de vous en donner des images en exclusivité.
Infiniment, Régis Le Sommier. Merci à vous. Merci également à vous, Raphaël Steinville, Naïma Mfadel et Benjamin Morel d'avoir participé à cette émission. Il est 13h40. Sur CNews dans quelques minutes pour trouver Clélie Mathias pour la belle équipe.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.